on arrive à deux chapitres, là, un moment très particulier dans la vie d'Abraham. Alors, ces chapitres sont un peu, je dirais, surprenants, parce qu'ils ne sont pas vraiment spectaculaires. On ne voit pas de mer qui s'ouvre, pas d'anges qui combattent toute la nuit, je ne sais pas quoi, un feu qui descend du ciel, on ne voit rien de tout ça. On voit simplement la vie ordinaire. Et dans la vie ordinaire, il y a deux réalités que personne n'évite, qui n'échappent à personne. C'est la mort et l'avenir. Et Genèse 23 commence par un enterrement et Genèse 24 se termine par un mariage. Et derrière ces deux événements, il y a une question. La promesse de Dieu, vous savez, avec la descendance, peut-elle survivre à la disparition de ceux qui la portent? Parce que c'est ça un peu notre question aussi. Ici, parmi nous, je ne pense pas que beaucoup se posent la question si Dieu existe. Si c'est le cas, on en reparlera tout à l'heure. Mais par contre, on peut se poser la question, est-ce que Dieu reste fidèle quand tout devient fragile dans nos vies? Quand une prière reste sans réponse ou semble être sans réponse? Quand une personne, un proche disparaît? Quand l'avenir devient incertain? Est-ce que Dieu agit encore? Eh bien, ces chapitres nous disent oui. Et souvent, précisément, quand on ne le voit pas. Alors ce soir, c'est assez classique, hein, trois points. La fidélité de Dieu face à la mort, la fidélité de Dieu dans nos décisions et la fidélité de Dieu dans la providence invisible. Et le texte commence assez simplement. Sarah mourut. Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour pleurer. Abraham pleure. Le père des croyants pleure. L'ami de Dieu pleure. Eh bien, c'est vrai, la Bible ne présente pas jamais une foi qui nie, qui supprime la souffrance. Elle présente une foi qui traverse la souffrance avec Dieu. La foi biblique n'est pas l'absence de larmes, c'est la présence de Dieu dans les larmes. Même Jésus, devant la tombe de Lazare, a pleuré. Hein. Je raconte souvent ça, et pardon si vous croyez que je radote. Lorsque, quelques heures avant de décéder, mon père nous disait: vous serez triste, mais vous ne serez pas malheureux du fait de notre espérance commune. Et c'est vrai, la foi n'empêche pas le chagrin. Elle empêche seulement le désespoir. Donc si aujourd'hui tu es fatigué, blessé, peut-être en deuil, ne crois pas que tu es un chrétien inférieur. Dieu ne te demande pas de faire semblant d'aller bien. Mais après ses larmes, Abraham fait quelque chose d'étonnant. On se souvient que Dieu lui a promis tout le pays de Canaan. Et pourtant, à l'instant T, il ne possède rien. Alors il achète un tombeau. Toute une vie à suivre Dieu. Et la seule propriété qu'il possède, c'est une grotte funéraire. Alors, si on regarde ça un peu de l'extérieur, on se dit, ça c'est un bel échec. Et la Bible nous dit exactement l'inverse. Parce que ce n'est pas un geste sentimental quand il achète cette tombe. C'est un acte de foi. Abraham, en d'autres mots, Abraham déclare, même si je meurs ici, Dieu continuera, accomplira sa promesse. Et Abraham accepte de ne pas voir l'accomplissement lui-même. Et d'ailleurs, en Hébreux 11, on peut lire ça. Ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Toutes ces hommes et ces femmes de foi. Ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Et c'est vrai que, premier abord, on se dit la mort de Sarah semble contredire la promesse. Mais en réalité, Dieu est en train d'enseigner quelque chose à Abraham, mais à nous également, bien sûr. la promesse de Dieu n'est pas limitée à la durée de notre vie. Imaginez-vous un jardinier qui plante un chêne. Il sait très bien qu'il ne s'assiera jamais à son ombre. Il ne le plante pas pour lui, il le plante pour ceux qui viendront après lui. Et Abraham achète un tombeau dans la terre promise, exactement ainsi. Ce n'est pas la fin de son histoire, c'est sa déclaration de « Dieu continuera après moi ». La foi chrétienne, ce n'est pas seulement croire que Dieu fera quelque chose dans ma vie, c'est croire qu'il est fidèle même au-delà de ma vie. Et on pense souvent, moi le premier, hein, si je ne vois pas maintenant, alors Dieu n'agit pas. S'il ne répond pas à ma prière maintenant, mais Dieu n'agit pas. Et le tombeau de Sarah deviendra en réalité le premier morceau de terre promise possédé par le peuple de Dieu. La mort n'a pas arrêté la promesse. Dieu a transformé même ce lieu de deuil en garantie d'avenir. C'était chapitre 23. Dieu fidèle. Au chapitre 24, on va voir plusieurs autres aspects. La fidélité de Dieu dans nos décisions, décisions humaines. Et là, on arrive à un autre problème. Sarah est morte, Abraham est très, très, très vieux, et Isaac n'est pas marié. Et là, on a un danger immense. Depuis Genèse 3, Dieu a promis une descendance qui apporterait la bénédiction au monde. Mais si Isaac reste sans enfant, ben la promesse s'arrête. Et on n'a pas lu le chapitre 24 en entier parce qu'il est extrêmement long. 67 versets, donc on serait encore en train de le lire. Mais c'est pour ça qu'il est si long ce chapitre, parce que c'est un chapitre très important. Ce n'est pas vraiment un récit sur le mariage. C'est plutôt un récit sur la survie de la promesse de Dieu. Abraham refuse qu'Isaac épouse une Cananéenne. Et là, il ne s'agit pas d'un mépris ethnique ou raciste. Hein. C'est simplement parce que la promesse de Dieu concerne un peuple mis à part pour lui. Et la foi ne concerne donc pas seulement nos prières, mais aussi nos choix de vie, nos orientations de vie. Et remarquez quelque chose d'important. Abraham ne devient pas passif. Il ne dit pas « Ah, Dieu a promis, moi je ne fais rien ». Au contraire, il agit, il organise, il envoie son serviteur. Et ça, c'est assez important. La foi, c'est ni l'activisme sans Dieu, ni l'attente sans obéissance. Parfois, on imagine la volonté de Dieu comme une adresse écrite dans le ciel. Mais la plupart du temps, c'est plutôt un GPS. Le GPS ne te montre pas tout le trajet d'un coup. Il te dit, il te donne la prochaine étape. Tourne à droite, continue tout droit. Et maintenant, on a même, attention, danger, zone accidentogène, etc. Et Abraham ne connaissait pas toute l'histoire. Et le serviteur non plus. Mais tous les deux ont obéi à la seule lumière qu'ils avaient. Et Dieu a dirigé le reste. Et c'est vrai que souvent nous voudrions que Dieu nous révèle toute notre vie. Mais non, Dieu nous donne seulement la direction du prochain pas. Et la foi obéit parce que Dieu agit. On voit aussi dans ce chapitre 24 la fidélité de Dieu dans sa providence invisible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le serviteur arrive dans un pays lointain et il prie simplement « Seigneur, fais-moi rencontrer aujourd'hui celle que tu as choisie. » Alors, ce n'est pas une prière spectaculaire, mais en revanche, c'est une prière dépendante. Écoutez bien ça. Dieu était déjà à l'œuvre avant même la prière du serviteur. Alors voilà, Rebecca arrive. Ni Abraham ni Isaac n'étaient présents, ils ne voyaient rien, ils ne contrôlaient rien, mais Dieu conduisait tout. Et voilà ce qu'est la doctrine biblique de la providence. Vous l'avez, c'est écrit, première phrase, Dieu dirige souverainement les événements ordinaires pour accomplir son plan. Souvent, on cherche des miracles visibles. Mais la Bible nous montre que le mode normal d'action de Dieu, ce n'est pas le spectaculaire. C'est la providence. Dieu dirige souverainement les événements ordinaires pour accomplir son plan. Et très souvent, on ne voit la providence que quand on regarde en arrière. Et plus on avance en âge, plus c'est vrai. Et je pense, et je peux témoigner de ça, et je pense que beaucoup de croyants peuvent aussi témoigner de ça, sur les moments, certaines choses paraissent être des retards. Mais plus tard, on comprend que c'était des protections. Peut-être un emploi refusé, peut-être une porte fermée, une rencontre manquée, etc. etc. Et sur le moment, on dit, pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Et des années plus tard, on dit, merci, Seigneur. Tu savais ce que moi, j'ignorais. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on reste avec nous. Pourquoi ? Mais le serviteur pensait chercher une épouse. OK. Mais Dieu, lui, préservait la venue du Sauveur du monde. Peut-être certains, aujourd'hui, ici, traversent une période un peu confuse. Tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Mais l'absence de compréhension n'est pas l'absence de direction de Dieu. Et à ce moment-là, Rebecca répond, « J'irai. » Elle avance sans voir, tout comme Abraham l'avait fait autrefois. Et la foi n'est pas comprendre tout le plan de Dieu, mais c'est faire confiance au Dieu qui a un plan. Pour imaginer ça, imagine un tapis persan vu de dessous. Mes photos ne sont pas très belles, désolé. Mais quand tu regardes l'arrière du tapis, tu vois plein de fils emmêlés, tu vois des nœuds, et tu ne vois pas de logique, aucune logique. Mais quand tu passes de l'autre côté, là tu vois une image, un dessin magnifique. Eh bien, nous, on vit dessous. On vit là-dessous, on voit ça. On voit des événements isolés, parfois douloureux, hein, parfois incompréhensibles. Mais la Bible nous montre le dessus du tapis. Et au centre du dessin, comprenez bien, pas là, hein, au centre du dessin, il y a Jésus-Christ. Et Genèse 23 et 24, ce sont des fils apparemment ordinaires, mais Dieu est en train de tisser l'histoire du salut en Jésus-Christ. Alors peut-être qu'en lisant ces chapitres, je vous invite à les relire chez vous. C'était long, on ne pouvait pas tout lire ce soir, mais relisez-les chez vous. Et en lisant ces chapitres, vous vous dites, bah ouais, mais même avec ce qu'on a vu avant, avec Isaac, le sacrifice, etc. Voilà, la foi, c'est faire confiance à l'exemple d'Abraham. Alors je ne vais pas vous dire que c'est faux, mais ce n'est pas encore ça l'Évangile. Dans ce texte, on voit que la foi n'est pas la leçon. Et ça, ce serait même moraliste. Si tu n'as pas la foi d'Abraham. Non, la fidélité de Dieu est la leçon dans ces chapitres. Et la foi des personnages et la nôtre, c'est une réponse à cela. Genèse 23 commence par un tombeau et Genèse 24 termine par une tente. Le texte nous dit dans une tente remplie de vie. Une génération disparaît, mais la promesse continue. Et pourquoi ces chapitres sont-ils si importants dans la Bible ? Ils sont cruciaux. Si Isaac n'avait pas eu d'épouse, il n'y aurait pas eu Jacob. Sans Jacob, pas de tribu d'Israël. Pas de tribu d'Israël, pas de David. Pas de David, pas de Jésus-Christ. Autrement dit, pendant qu'Abraham pleurait, pendant qu'un serviteur cherchait une épouse, pendant qu'une jeune femme puisait de l'eau, ben Dieu était en train de préparer la venue du Sauveur du monde. Ça, c'est la vraie consolation du croyant. La preuve que Dieu dirige l'histoire n'est pas que nous comprenons nos circonstances. On ne comprend rien, nous. La preuve est que Christ est venu. La preuve que Dieu dirige l'histoire est que Christ est venu. Le chrétien ne lit pas sa vie en regardant uniquement ses circonstances. Il la lit en regardant la croix et le tombeau vide. Et si Dieu a été si fidèle pendant des siècles pour accomplir sa promesse et envoyer son Fils, Jésus-Christ, alors il est fidèle pour accomplir toutes les promesses faites à ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile. On ne peut pas se sauver soi-même. Mais Dieu a donné son Fils. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Et quiconque se repent et croit en lui reçoit le pardon et la vie éternelle. Je termine. L'assurance chrétienne repose ici, pas dans notre foi, mais dans la fidélité historique de Dieu. Alors au début de cette prédication, posez la question, Dieu reste-t-il fidèle quand tout devient fragile? Et je pense que la vraie question est plutôt, allons-nous nous reposer dans la fidélité d'un Dieu qui n'a jamais cessé de tenir ses promesses? Il a toujours tenu parole. Et si, toutefois, tu ne sais pas trop de quoi on parle ce soir, et que tu viennes à Christ, tu ne découvriras pas un Dieu hésitant. Tu découvriras un Dieu déjà fidèle de toute éternité, depuis toujours. Amen. Avant de passer à la prière en commun et à la Sainte Cène, je souhaitais faire une transition pour introduire cette Sainte Cène sur la base de ce que nous avons lu et entendu. Dans ces chapitres, on voit comment Dieu a fidèlement conduit l'histoire. Abraham pleure sans comprendre encore tout ce que Dieu fait. Un serviteur voyage sans savoir où cela mène. Rebecca avance sans voir l'avenir. Mais aujourd'hui, nous savons ce qu'eux ne voyaient pas encore. Dieu préparait la venue de Jésus-Christ. Et la Sainte Cène est précisément le moment où nous ne regardons plus la promesse en préparation, mais la promesse accomplie. Le tombeau de Sarah annonçait que Dieu garderait son alliance malgré la mort. Et la table du Seigneur, derrière moi, nous annonce quelque chose d'encore plus grand. Christ a traversé la mort pour garantir définitivement l'alliance. Le pain que nous allons prendre nous rappelle son corps livré pour nous. La coupe nous rappelle son sang versé pour le pardon de nos péchés. Et dans la prédication, nous avons entendu que Dieu dirige l'histoire pour accomplir sa promesse. Dans la scène, le repas du Seigneur, la Sainte Cène, Dieu nous assure personnellement que cette promesse est pour nous. La scène, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est aussi une proclamation. Et nous proclamons que le salut ne repose pas sur la force de notre foi, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Aussi, tous ceux qui se confient en Jésus-Christ seul pour leur salut, qui reconnaissent leurs péchés et désirent marcher avec lui, sont invités à venir, non parce qu'ils en sont dignes, mais parce que Christ l'est. « Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus, Et nous voulons le faire maintenant, mais au préalable, je vous propose que nous prions sur la base de ce que le Seigneur a mis sur notre cœur ce soir. Et je conclurai. Ensuite, nous pourrons venir librement prendre la scène. Prions.